Chers auditeurs, veuillez nous excuser pour l'émission de la semaine dernière, qui n'était pas celle qui aurait dû être diffusée suite à un problème technique. Vous retrouverez donc dans quelques instants l'émission telle que vous auriez dû la découvrir. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous avons une émission un peu spéciale. Nous allons parler du martyr des chrétiens dans le monde sous différents angles. Et cela pour présenter un magnifique projet de 24 heures de messe qui seront célébrés les 10 et 11 avril prochains à l'église Saint-Roch à Paris, qui se trouve 296 rue Saint-Honoré. C'est Franck Beaugin qui a eu cette intuition et qui nous en parlera dans quelques instants. Je remercie Régis Le Sommier qui interviendra pour nous parler du massacre qui eut lieu cet été en RDC, République démocratique du Congo, et j'aurai une question un peu piquante sur les chrétiens persécutés en Europe, oui chez nous, plus précisément en Ukraine. Enfin, je suis heureuse d'accueillir Azaï, jeune homme formidable qui a dû quitter ses terres natales puisqu'il est né à Ninive pour se réfugier en France après avoir été grièvement blessé en octobre 2010 lors de l'attentat de la cathédrale de Bagdad. Figurez-vous qu'en France, maintenant, il subit aussi la persécution, ainsi que sa femme et ses enfants. Nous allons évoquer cela. Alors, bonjour messieurs, merci infiniment de votre présence.
Bonjour.
Cette émission sera très dense et hélas trop courte. Alors, comme nous le savons, de plus en plus, les chrétiens sont persécutés dans le monde entier, en Amérique centrale, en Afrique et en Asie, une persécution extrême même. Vous le savez sans doute, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde, Corée du Nord, mais aussi au Yémen, en Arabie Saoudite, en Libye, au Nigeria, au Soudan. Voilà, la liste est longue et c'est un réel problème dont nous ne parlons pas tant que ça. Commençons avec vous, Régis Le Sommier, car vous êtes allé sur place, vous connaissez cette situation. Alors Régis Le Sommier, vous êtes, comme nos auditeurs le savent bien, journaliste, grand reporter et surtout directeur de la rédaction du média Omerta, que tout le monde connaît ici. Alors j'ai une question s'il vous plaît, une question qui me taraudait depuis la lecture de votre article dans le magazine numéro 10, paru en septembre. Vous évoquez un massacre qui a eu lieu en juillet dernier lors d'une messe d'une communauté chrétienne. Appelée la croisade eucharistique, des Congolais se sont fait massacrer dans la province de l'Ituri à Komanda. Alors pour situer pour nos auditeurs, c'est plein est de la RDC à moins de 100 km de l'Ouganda. Donc ces Ougandais qui ont fait allégeance à Daesh, ont-ils délibérément visé des chrétiens dans un esprit de guerre de religion? Ou alors n'est-ce plutôt qu'un prétexte pour envoyer un signal aux autorités locales ou mondiales, voire aux entreprises minières?
Alors vous savez, c'est très bien résumé comme question, et d'ailleurs, quelque part, la réponse se trouve dans la question. La donne, je ne vais pas dire que la donne religieuse est à écarter totalement. Des chrétiens, vous savez, moi j'ai souvent tendance à dire, quand je parcours ces pays où les chrétiens sont menacés, que ce soit l'Afghanistan, où il n'y en a quasiment plus, ou le Moyen-Orient en général, que le chrétien en général, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire celui qui meurt, qui se fait persécuter avant que la société ne s'embrase en général. C'est-à-dire quand on touche aux chrétiens, en général, ça veut dire que rien ne va en fait. Et pour ce qui est du Kivu, ou en l'occurrence de l'Ituri, qui est la province juste au nord du Nord Kivu pour le coup, et on est quasiment à Komanda à la frontière, ce massacre perpétré par ADF Nalu, qui est un groupe, l'Alliance des Forces Démocratiques, en plus vous imaginez le titre, et qui a fait allégeance à Daesh en 2017, ce groupe est tombé sur ces chrétiens qui célébraient une messe un samedi soir, ça se passait aux environs de minuit. Ce qui est intéressant, c'est que les messes dans ces pays-là, elles durent très très longtemps. Il y a plusieurs services d'ailleurs, que ce soit chez les évangéliques comme chez les catholiques. Hein, les chrétiens passent beaucoup de temps en célébration. Et donc, on est face à des groupes, effectivement, dont l'objectif principal, des groupes qui sont en guerre en permanence avec le gouvernement et les autorités, mais dont l'objectif principal est la prédation d'exportation des ressources, en particulier du café, du tabac dans ces zones-là. Il y a aussi la question du bois qui est très, très importante. Et puis, parce qu'on est en Iturie, la question de l'or. C'est une zone où l'or est partout. Et donc, voilà. Donc ça, c'est l'objectif principal. Et ce groupe, effectivement, de musulmans fanatiques, affiliés à Daesh depuis 2017, tombe en gros sur un village, mais pour tout vous dire, quelques mois auparavant, le village voisin avait été attaqué par le même groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils attaquent, ils tirent quelques cartouches à la Kalachnikov, et puis ils sortent leur machette, et le massacre a lieu à la machette, pour vous expliquer le contexte. Il y a aussi des maisons qui sont brûlées, qui ont été brûlées, des véhicules également, et surtout particularité de ce groupe d'origine ougandaise, où on se connaît cette propension qu'ont certains groupes en Ouganda, en particulier l'armée du Seigneur qui a longtemps régné au nord de l'Ouganda, c'est de prendre des enfants soldats, c'est-à-dire donc il y a une captation sur les communautés d'adolescents qu'on coupe de leurs racines familiales pour en faire des tueurs fanatiques, complètement à la solde du groupe. Et c'est ce qui s'est produit aussi pendant ce massacre. Environ une quinzaine d'adolescents ont été capturés et ramenés dans la forêt par ce groupe qui ensuite s'est évaporé, et les autorités, nous sommes arrivés avec elles 24 heures après, n'ont pas pu faire grand-chose pour les retrouver. Voilà.
Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, que vous connaissez bien, il y a un tabou quand même, c'est la persécution de l'Église orthodoxe ukrainienne, bien confisquée, Église perquisitionnée, prêtres emprisonnés. On en parle très peu en Europe. Du reste, tout ce qui touche à l'Ukraine, de toute façon, semble tabou. Qu'en est-il actuellement ?
Je crois que pour marquer encore de façon plus importante cette volonté de l'Ukraine de se couper de toutes les racines qui la lient avec la Russie, et le problème étant que l'Ukraine est extrêmement liée avec la Russie, qu'une partie de sa population parle russe, et que ses églises, qui étaient le patriarcat de Moscou et celui de Kiev, étaient intimement liées. Et auparavant, et là, on a voulu de façon politique couper les liens jusqu'à provoquer des persécutions, ce qui est pas nouveau en Ukraine. Hein, les persécutions par les nationalistes ukrainiens des éléments russes ou russophones existent depuis 2014, depuis la révolution, le coup d'État du Maïdan, appelons-le comme on veut. Il y a eu des tentatives, notamment à l'époque où c'était Porochenko qui dirigeait le pays, de supprimer la langue russe, par exemple, ce qui est quand même une aberration quand on sait que la plupart des Ukrainiens, en tout cas une grosse partie, s'expriment en russe, et en particulier à l'Est, où pour certains, la langue ukrainienne est totalement étrangère. Donc sur la question de la foi, il y a eu aussi une volonté du gouvernement Zelensky de couper les ponts jusqu'à observer et pratiquer des persécutions qui sont en général le fait de nationalistes ukrainiens ultra. Malheureusement, c'est pas prêt de s'arranger, sauf évidemment s'il y a un accord de paix. Peut-être que cette question viendra justement dans les demandes des Russes pour un cessez-le-feu et une paix négociée, on dira. Peut-être que cette question, comme la question de la langue russe, fait partie des accords. La question de la pratique de la pratique religieuse, et en particulier de l'Église orthodoxe russe en Ukraine, est sans doute, je ne suis pas, on va dire, dans les secrets des dieux pour ce qui est de ces négociations, mais en tout cas, c'est certain. Connaissant les Russes, ça fait partie des desiderata de leur part pour cesser cette guerre.
Alors, j'ai une dernière question d'actualité. L'Iran est un pays très dur contre les chrétiens. En 2024, 96 chrétiens ont été condamnés à 263 ans de prison. À ce jour, nous ne savons pas comment la situation évoluera, si Téhéran tombera ou pas. Le régime des mollahs est terrible. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une répression sera forte, parce que derrière les manifestants, peut-être que pour ces mollahs, il y a la figure non seulement des juifs, mais du chrétien?
Alors, je ne sais pas si le juif et le chrétien sont associés au regard de l'imaginaire des mollahs et
Oui.
des gardiens de la révolution iranienne. Ce que je peux vous dire, c'est quand même que, à la différence de pays de la région, même si effectivement il y a eu, vous avez raison de le souligner, les chrétiens exécutés, il y a quand même plus d'une centaine d'églises en Iran
Mais
et
des églises autorisées,
oui, autorisées.
comme en
Mais
Chine, en
par
fait,
exemple,
peut-être.
je m'étais rendu dans la communauté arménienne qui est très importante à Ispahan. Vous avez des églises où le culte est pratiqué sans problème. Donc, si vous voulez, j'ai pu assister à des offices là-bas. Et donc, je m'en souviens très bien. Alors, le traitement des minorités est souvent lié, en fait, c'est-à-dire que les femmes dans ces minorités doivent elles-mêmes porter le voile. Au même titre que la religion chiite dominante dans le reste de la société. Donc les chrétiens doivent porter le voile, les chrétiennes, et voilà, et il y a un statut, mais si vous voulez, c'est plus, à mon avis, sur des activités de persécution d'opposants que strictement chrétiens que ces gens-là ont été condamnés. Le gouvernement et le régime des mollahs étant particulièrement sensible, évidemment, sur toute activité de malveillance, enfin, censée pour eux, à leurs yeux, menacer le régime. Ce qui est très intéressant, vous avez parlé de la répression, mais elle a été extrêmement violente ces jours derniers.
Oui.
Mais en revanche, les manifestations n'ont pas été dans l'ampleur qu'elles avaient pu atteindre en 2009, par exemple, ou même en 2022, la date de mon dernier séjour en Iran, où les persécutions, enfin, si vous voulez, là, ça a été extrêmement violent, mais moins massif en termes de nombre, sauf peut-être samedi soir à Téhéran. Et donc, le problème, c'est que quand il y a de la violence, les manifestants pacifiques qui voudraient donner nombre pour faire piller le régime et éventuellement ne se mobilisent pas. C'est-à-dire, quand il y a de la violence, les manifestations pacifiques ne vont pas avoir lieu. Les gens ont peur en Iran.
Oui.
Et donc, ils ont peur autant des autorités que des manifestants. C'est une situation très, très compliquée en ce moment. Avec l'intervention annoncée de Donald Trump, on ne sait pas à quel niveau, de quelle nature elle sera. Donc, tout ça fait planer sur ce pays une forme d'incertitude. Et pour le moment, rien n'a changé. Bon, après, on pourrait venir sur la question de Reza Pahlavi, la
Oui.
question des monarchistes, de la représentation de l'opposition. Quelle opposition pour remplacer le régime à Téhéran quand on sait que celle-ci est complètement désunie et que Reza Pahlavi ne fait pas la majorité chez les Iraniens. Le courant monarchiste existe, mais il n'est pas majoritaire chez les Iraniens et comment le Shah d'Iran, le père, n'avait pas laissé, et il faut le reconnaître quand même, que des bons souvenirs au
Oui.
sein de la population iranienne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu la révolution islamique, pardon, en 1979. Voilà.
Oui. Bon, merci infiniment, Régis Le Sommier. À très bientôt. J'ai
Merci
un
beaucoup.
stock de questions à
Merci.
vous poser pour une autre fois. Merci beaucoup. Au revoir.
Il n'y a pas de souci, on reprend date. Merci, au
Merci
revoir.
beaucoup. Au revoir.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, Azaï, si je tenais à vous accueillir aujourd'hui, c'est pour le témoignage non pas de ce qui vous est arrivé à la Toussaint 2020, lors de l'attentat de la cathédrale de Bagdad dont je parlais en préambule, mais que vous nous disiez plutôt que la persécution, vous la vivez de nouveau en France, chez nous. Pour une raison évidente de sécurité, nous ne donnerons pas le nom de la ville où vous habitez ainsi que des écoles que vos enfants fréquentent. Azaï, vous êtes arrivé en France donc il y a 14 ans déjà, 15 ans presque.
Presque.
Je voudrais souligner que vous avez appris le français en moins d'un an pour remercier la France de vous avoir accueilli et soigné, comme vous me l'aviez dit à l'époque. Donc une réelle, vraie volonté de vous intégrer et de remercier la France. Vous êtes français depuis.
Bien sûr.
Vous êtes installé, vous avez fait votre vie, mais peu de temps après, vous avez découvert que finalement, ce n'est pas évident pour des Irakiens de vivre en France comme chrétiens. De mémoire, je me souviens que même dans le centre d'accueil où vous étiez, quand vous êtes arrivé en France, vous étiez embêté par d'autres réfugiés qui vous embêtaient, en fait.
Oui, c'est pas...
Dès le début, en fait.
C'est pas facile, franchement, depuis que je suis arrivé. Au début, à l'hôpital, tout ça, tout allait bien.
Oui.
On sentait rien de tout. Et je sentais que vraiment, la France, c'est quelque chose... c'est un pays où vraiment les chrétiens peuvent vivre tranquillement là-dedans.
Oui.
Mais une fois quitté l'hôpital, installé dans un bâtiment de gens travailleurs,
oui.
Et ben en fait j'ai commencé à voir les gens qui font la prière pendant dans les couloirs, dans des trucs comme ça. Et une fois ils savent que vous êtes chrétien, ben
oui.
En fait vous êtes mal vu.
Oui.
Et petit à petit j'ai commencé à franchement à sentir que c'est je peux dire c'est un peu pire que l'Irak, parce que l'Irak, bah, on voit que des Irakiens. En France, il y a toutes les nationalités.
Et ce sont ceux-là qui vous embêtent.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, maintenant, c'est encore pire. Avec les enfants, on a plus
oui.
peur.
Mmh. Alors que je vous connais bien, vous êtes très courageux, mais pourtant, on sent quand même que vous êtes inquiet.
Très. Très ouais. inquiet même, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai les enfants, et je pense à quand ils vont grandir, même
oui.
aujourd'hui, ils sont menacés à l'école.
Alors ça veut dire quoi, menacés à l'école?
Bah, menacés, c'est que...
Alors il faut préciser qu'ils sont... enfin, qu'ils étaient dans le public, il en reste encore un dans
tout
le public,
fait.
Et c'est dans le public qu'ils ont eu des problèmes.
Bien sûr.
Avec notamment la directrice
dans la
qui
même
était
ville
musulmane.
Où on habite...
Oui.
Bah en fait, ils jouent pas avec mes enfants parce que ils mangent du porc.
Oui.
Et que leur maman, elle porte pas le voile.
Oui.
Et même les adultes, ils posent des questions. Pourquoi
oui.
elle fait pas le ramadan? Pourquoi elle a pas
Alors
le voile?
Alors ça, au sein de l'école, hein?
Ah oui, ah oui.
Il
oui.
faut dire que c'est le corps enseignant.
C'est carrément les maîtresses, tout ça, les gens qui aident pour la cantine, tout ça, et vous voyez ça, c'est bizarre. Parce qu'on a une tête, on va dire, arabe,
oui.
mais on est des chrétiens. Donc, en fait, ils voient ça bizarrement. Et même dans la rue, même au travail, la majorité des gens, ils disent même plus bonjour. Ils disent salam alaikum. Mm. Mais on est en France quand même.
Oui.
C'est franchement, je vois que c'est très, très... Ça commence à être vraiment dangereux.
Votre épouse ne peut plus aller faire de courses dans certains magasins de la ville. C'est une ville qui est attachée à Paris.
Bien sûr.
Donc, qui a un quartier difficile, un autre moins difficile.
Oui,
et
tout à fait.
Elle ne peut pas aller n'importe où.
De toute façon, il y a des magasins où elle ne peut pas y aller.
Alors pourquoi? Parce qu'on ne va pas la servir ou alors on va l'embêter?
Non, elle est bien servie, la vérité. Mais les gens, ils marchent derrière elle, ils la draguent, ils parlent bizarrement. Oui, ils lui parlent en arabe. Oui, moi, il y a plein de trucs, il y a plein de mots, on peut même pas les dire.
Oui,
elle
se fait insulter.
Voilà. Et surtout, le soir, moi, ma femme, dès qu'il fait nuit,
oui.
Elle ne sort plus.
Oui, oui.
C'est bon, c'est comme si on est en Irak, quoi. C'est pire.
Oui.
Je pense aujourd'hui en Irak, il sort jusqu'à minuit. Mais aujourd'hui, moi, ma femme, elle sort pas toute seule. C'est impossible.
Bien sûr, oui, oui, oui.
Donc c'est dangereux pour les enfants.
Les gens vont taper contre la porte de votre
oui.
habitation pour vous embêter la nuit.
Parce que en fait, chaque année, ça fait 4 ans, on habite dans cette ville. Chaque année, on met les dans les fenêtres, les éclairages pour Noël, tout
oui,
ça.
Oui.
Et ben en fait, les gens ils savent qu'on est des chrétiens.
Oui.
Et ben en fait, pour n'importe quoi,
oui.
ils nous embêtent.
Oui, c'est
ils
ça.
Appellent
en
pour
fait...
ma voiture par exemple, pour l'enlever. Ils tapent sur les portes. Ils tapent et ils courent.
Oui.
Mais c'est vraiment insupportable.
Est-ce que les autres chrétiens de votre paroisse subissent les mêmes persécutions?
C'est exactement la même chose. Dans
oui.
beaucoup de villes.
Oui.
Et j'ai beaucoup de familles à Strasbourg,
oui.
à Lorient.
Oui.
Et ben, en fait, c'est la même chose.
Oui. Oui, oui.
C'est la même chose. C'est oui. Partout la même chose. Et la vérité, on essaye de trouver un endroit pour aller vivre en paix.
Oui.
Parce que c'est ce qu'on cherche.
Bien sûr.
Mais,
ouais.
Mais c'est difficile.
On espère qu'un projet que nous avons aboutira. En tous les cas, chers auditeurs, si vous avez quelque chose, un logement à nous proposer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à Radio Courtoisie, parce que voilà, on pourra faire suivre pour la famille d'Azaï. Merci beaucoup, Azaï. C'est gentil d'avoir témoigné. Je sais que deux de vos enfants sont à l'abri dans une école hors contrat. Et peut-être l'année prochaine, on l'espère, pour le troisième.
On l'espère.
Parce qu'il faut les protéger, ces petits. Alors, Franck.
Oui.
Alors, vous allez nous parler de ce beau projet que vous avez, la plus belle arme pour être aux côtés et soutenir les chrétiens persécutés, c'est la prière. Avec sa forme la plus élevée, la messe. Donc, les 10 et 11 avril prochains, Franck Beaugin, vous organisez quelque chose avec un groupe de très bons amis, très motivés.
C'est certain.
Pour cette cause. Pouvez-vous nous présenter ce projet, s'il vous plaît?
Oui, je vais vous le présenter avec grand plaisir. Mais juste préalablement,
oui.
Pardonnez-moi, je voudrais faire un petit constat parce que j'ai récupéré des informations et je voudrais vous les faire partager. Ça va être rapide.
Volontiers.
Et puis après, je me focalise sur le projet. Aujourd'hui, le constat est alarmant. Dans tous les pays chrétiens sont attaqués depuis trop longtemps. Et aussi, et surtout, en France, on ne le dit pas suffisamment. Donc, permettez-moi, avant de parler du projet, de vous informer sur l'état de ces attaques dans notre pays depuis le mois de septembre. J'ai juste collecté...
Six mois.
Et mes sources, c'est la DGSI, dont l'intitulé, c'est « Protection des lieux de culte ». L'objectif, c'est est-ce que les chrétiens sont ciblés par le terrorisme islamiste? C'est oui. Alors, allons-y. Mois de septembre, Lyon, meurtre de l'influenceur chrétien Achour Sarnaya, tué à la machette. 30 septembre, Périgueux, vandalisme du calvaire de la croix de Bertrix. Automne 2025, dans l'Aisne, une trentaine de vols d'objets sacrés. 17 novembre, église Saint-Raoul, tronc de cierge forcé. 18 novembre, le sacristain de la Madeleine à Paris est agressé. 22 novembre, Acher, dans le 78, pillage du cimetière, vol des croix catholiques. 25 novembre, à Amiens, la crèche du marché de Noël est vandalisée. 30 novembre, à Marseille, tag christianophobe sur l'église des Chartreux. 3 décembre, Fonsorbe, deux départs de feu criminels dans l'église. 12 décembre, Montreuil en Touraine, vol et vandalisme des décorations de Noël. Voilà, je termine par le rapport de l'OIDAC, rapport européen des atteintes christianophobes. Le vandalisme représente 50% des actes criminels, soit 2211 crimes de haine enregistrés en 2024, dont 274 agressions physiques.
Oui. L'état de la France.
Ces menaces n'ont qu'un seul but, s'attaquer aux symboles de notre foi, diviser la société, semer la peur. En tant que catholiques, nous sommes appelés à rester vigilants, spécialement lors des messes et rassemblements, soutenir nos prêtres, nos paroisses et tous les fidèles, prier pour la paix, pour les victimes du terrorisme et même pour la conversion de ceux qui commettent ou projettent la violence, refuser bien évidemment tout amalgame. Notre force, c'est le Christ. La peur ne peut l'emporter sur l'espérance, ni la violence sur la charité. Restons unis, confiants, attentifs les uns aux autres. Il ne faut pas endurcir notre corps, vivre dans le mépris, dans la nostalgie, dans le cynisme. Nous devons faire face, il faut avoir une âme de feu, une âme de reconquête. Alors,
Magnifique. Je
cite Saint Paul et j'arrête là. Nous sommes toujours surchargés, mais jamais écrasés. Tourmentés, jamais désespérés. Attaqués, jamais vaincus. Si l'on nous renverse, nous nous relevons toujours, comme un idéal de chevalerie. Revêtez l'armure de Dieu, saisissez le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Prenez le glaive de l'esprit et les pieds chaussés de l'ardeur que donne l'évangile, de la paix. Tenez-vous prêt non seulement pour résister en ces jours mauvais aux embûches, mais pour occuper le terrain. Message d'espoir. Soyons pas les nouveaux Pilates qui se lavent les mains tandis que l'on tue des innocents. Plus nous sommes attaqués, plus nous pouvons acquérir de mérite et de perfection, et plus nous sommes unis au Christ et à la croix. Enfin, soyons les défenseurs de la foi, des défenseurs de la vie.
Bon. Alors, concrètement, vous avez 2 minutes pour me dire ce que vous faites.
Ok, donc le projet des 24 heures de messe, c'est passé à l'action. 24 heures de messe pour les chrétiens martyrisés partout. Qu'ils sachent, qu'on les informe, que l'on prie pour eux, et surtout, qu'on les oublie pas. On les oublie pas. On peut pas faire grand chose, mais nos prières, elles sont fortes, elles sont réelles, elles sont sincères. 24 heures de messe qui vont aussi réunir toutes les communautés catholiques, les Coptes, les Chaldéens, les Maronites. On va essayer de faire venir le plus de communautés catholiques. D'abord, ça va montrer à tout le monde la richesse de notre Église. Et puis, vous pourrez aussi en profiter. Ma foi, si vous avez jamais assisté à une messe copte, bah, venez assister à une messe copte, par exemple. On souhaite aussi assister vivement toutes les associations, l'AED, l'œuvre d'Orient, SOS Chrétien d'Orient, et tous les autres en fonction des possibles et des volontés. Ils seront les bienvenus, sans exclusive. On vous attend. Mais il y a quelque chose que je dois faire en conclusion. Il faut aussi que je remercie vraiment chaleureusement l'abbé Laurent de Saint-Roch qui nous ouvre les portes de son église, et ces portes sont grandes ouvertes. Car grâce à lui, toutes les communautés vont pouvoir célébrer selon leur rite, les associations venir et les fidèles, bien sûr, sans aucune exclusive. Vous êtes tous conviés. Donc le 10 avril, à partir de 19h30 à Saint-Roch, pendant 24 heures non-stop, jusqu'au 11 avril, donc seront célébrées 24 heures de messe. Et puis je rajoute quand même quelque chose, parce que ça fait toujours du bien qu'on est catho. Puis 24 heures de confession. Voilà.
Merci beaucoup, Franck. Alors attendez, une question pratique. Ça commence à 19h30 pour la première. La deuxième est à 20h30. Et c'est comme ça.
Oui.
Donc si on arrive, par exemple, à minuit et demi, nous avons une messe.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup.
Alors, je vous donne là où vous allez pouvoir trouver les informations, parce que c'est important. C'est très simple. contact@messe-au-singulier-24h.fr. Je répète, contact@messe-24h.fr. Merci beaucoup.
Donc, ensemble, 24 heures de messe et de prière pour soutenir les chrétiens martyrisés. Nous y serons.
Merci beaucoup.
Bonne semaine, chers auditeurs.
Merci.
Au revoir, Azaï. Au revoir, Franck. Au revoir, Régis.
Au revoir.